Il y a les enquêtes, enquêtes qui piétinent.
Philippe-Vincent Foisy.
Puis un moment donné, on entre dans un cercle vicieux.
Stéphane Bureau.
On s'expose à ce que des gens disent, ben, il y a un poisson dans le dos, là. Mais ensemble, ils forment la majorité. Ils ne le voient pas.
La rencontre.
D'un autre côté, on s'en va à table de négociation.
Essayer de comprendre.
Elles sont où les solutions? Parce que visiblement, ça en prend plus qu'une.
Appuyer sur tous les boutons.
La rencontre. Bureau Foisy.
Stéphane Bureau, bonjour.
Salut, Philippe Vincent. En direct ce matin du soleil. Je suis à Québec, puis il fait beau ce matin.
Wow, chanceux.
Je pense que c'est plus gris chez vous. Je me suis réveillé, en fait, très tôt et je faisais mon jogging sur les plaines d'Abraham en regardant le fleuve. Et je me disais, ah, vraiment, c'est un joyau, cette ville.
C'est l'un de mes plus beaux jogging à vie quand je vivais à Québec, d'aller courir sur les plaines.
Oh,
d'arriver sur la terrasse, mon calme.
Par Dufresne jusque sur les plaines, et puis la ville se réveillait tranquillement avec le soleil au-dessus du fleuve. C'était magnifique. Carte postale, c'est éculé de le dire que c'est beau, mais c'est vrai. Bon début de journée sur les plaines ce matin. Je vais commencer peut-être par un mea culpa, et je te remercie d'ailleurs de m'avoir fait suivre ce courriel d'une auditrice hier, parce que je me suis permis de me foutre un peu de la gueule du jury Goncourt, du prix Goncourt, en disant qu'ils avaient écarté Virginie Despentes, probablement parce qu'ils étaient vexés qu'on n'ait pas besoin d'eux pour qu'elle ait de bons scores en librairie. Or, ils avaient précédemment dit que si elle était écartée, c'était non pas parce qu'elle avait du succès ou que son roman n'était pas recevable, autrement sinon que par le fait qu'elle a déjà été membre du jury et donc ça semblait un peu gros et qu'il y avait une apparence peut-être de conflit d'intérêts. Donc, mea culpa, le journaliste est ici corrigé. Puis j'ai aussi fait le souhait, sans l'avoir vérifié hier matin, que le songe d'une nuit d'été, la nuit des rois de Shakespeare part en tournée.
Oui.
Et c'est une affaire qui arrivera au cours des prochaines semaines.
Bon.
Le chroniqueur culturel que je ne suis pas aurait dû faire ses vérifications avant de s'emballer sur particulièrement cette pièce de théâtre vraiment magnifique et qui semble faire l'unanimité parce que je lisais un peu partout après la chronique hier. Plein de gens sont allés au théâtre en fin de semaine et ont été ravis. Voilà, c'est terminé.
Ben,
on se revoit la semaine prochaine.
Non. Il y a plein de sujets dont je veux, avec lesquels je veux. En fait, je veux t'entendre sur Edward Snowden qui devient citoyen russe alors qu'on est en plein référendum dans l'est de l'Ukraine et que ça pourrait avoir un effet domino tout ça. Là.
Moi, je ne sais pas si le fait qu'il devienne citoyen russe aura un effet.
C'est plus les référendums.
Évidemment, c'est un moment où cette nouvelle a été automatiquement instrumentalisée par l'appareil de la sécurité nationale aux États-Unis. Ça deviendrait donc la preuve que c'était un ennemi du peuple américain, Edward Snowden, et que les fuites de renseignements dont il est le responsable, avec des journalistes qui ont travaillé avec lui, entre autres Glenn Greenwald, qui avait remporté, je pense, un Prix Nobel pour ça, ça serait le fait d'une complicité avec l'ennemi. Je pense que c'est totalement absurde. Éventuellement, ça fait plusieurs années qu'il est réfugié en Russie. J'imagine qu'il était inévitable qu'il devienne un jour citoyen russe. Est-ce que l'organisation de cette annonce est liée à ce qui se passe? Ça se peut. Je pense que rien n'est plus gratuit. La communication aujourd'hui participe de la guerre. Est-ce que le gouvernement russe et M. Poutine ont voulu profiter de ça pour faire un genre de diversion? J'en ai aucune idée. Je pense qu'il ne faut surtout pas oublier que Snowden, c'est un objecteur de conscience qui a révélé à tous, Américains, Canadiens, citoyens partout, que nous étions sous écoute 24/7 et qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de communication qui était à l'abri de la National Security Agency. Daniel Ellsberg, qui est, en termes de lanceur d'alerte, la bonne caricature, c'est-à-dire celui qui avait permis de faire en sorte que le Washington Post et le New York Times publient les fameux Pentagon Papers, c'est-à-dire l'histoire officielle de la guerre du Vietnam telle que le Pentagone ne voulait pas qu'on la raconte, qui faisait la lumière sur plusieurs des mensonges dans le narratif officiel. Le président Nixon, à l'époque, a tout fait pour avoir la tête de M. Ellsberg, avait même fait cambrioler le bureau de son psy pour avoir accès à ses dossiers confidentiels, pour pouvoir le montrer du doigt, le tourner éventuellement en dérision, questionner sa santé mentale. Évidemment, ça s'est éventuellement retourné contre le président, mais c'est un peu la même mécanique. Or, aujourd'hui, Daniel Ellsberg, je pense pour tous, est un héros qui a permis de savoir ce qui se passait en coulisses. D'une manière certaine, sinon certainement, Snowden a fait la même chose. Il a été très vite, je le constate, abandonné par les grands médias pour lesquels il a été très, très, très payant. Il avait fait leur filet. Ils ont tous tiré profit de cet immense scoop, parce que c'est un des grands scoops des 20 dernières années. Hier, je lisais d'anciens hauts responsables de la National Security Agency déclarer que sa nouvelle citoyenne ne faisait donc que confirmer son intention malveillante. C'est de la bullshit totale. Je pense pas que Snowden ait jamais eu l'intention d'aller faire sa vie en Russie quand il a quitté Hong
Kong. Mais non, il n'y a pas le choix, là. Mais non, c'est ça. Mais ça, c'est ça qui est fascinant.
Il a été exfiltré de Hong Kong. D'ailleurs, je pense que deux ou trois des complices chinois ont été reçus au Canada, mm-hmm. ce sont de nouveaux arrivants, mm-hmm. Parce qu'on craignait pour leur propre sécurité.
Comme réfugiés.
Ils avaient été complices, mais ils avaient été complices de cette fuite de Hong Kong. Snowden a transité par Moscou, pensait arriver à Moscou pour pouvoir aller éventuellement ailleurs. Cet ailleurs, ça a été longtemps, on le pense, l'Équateur. Et une des étapes sur la route de Moscou à l'Équateur devait être, pour les Russes, qui l'aidaient à ce moment-là un peu, c'était le meilleur moyen, une étape à Cuba. C'est-à-dire qu'il fallait que l'avion dans lequel ils seraient embarqués aurait eu à faire le ravitaillement à Cuba. Et aujourd'hui, c'est public. Ben Rhodes, qui était un des conseillers principaux du président Obama, son auteur principal, celui qui écrivait ses discours, a tout fait. Et Joe Biden, qui était le vice-président à l'époque, était le bras armé qui a menacé. On a levé le téléphone pour appeler les autorités à Cuba. C'est pas des élucubrations, c'est fondé. On a dit, écoutez les amis, on est théoriquement pas en relation. On n'est pas toujours du même côté de la barricade. Mais si vous faites ça, gare à vous. Si vous permettez à un avion qui transporte Snowden, gare à vous. On vous a à l'œil. Et les Cubains, éventuellement, auraient refusé donc qu'un avion le transportant puisse atterrir chez eux. Et Snowden est resté en Russie d'aucune manière. On peut penser qu'au départ, il avait coordonné le coup avec les autorités russes ou qu'il était complice.
Mais il a été en France pendant un moment aussi, non?
Je ne pense pas. Okay. Je pense qu'il y a plusieurs pays qui ont...
Parce qu'à un moment donné, c'est ça, mais...
En tant qu'on pourrait lui donner l'asile, ça n'a pas fonctionné.
L'Union européenne l'a utilisé aussi, parce qu'à un moment donné, l'Union européenne était en colère de ce qu'ils ont appris par Snowden.
Bien, évidemment. On a appris, entre autres, que le téléphone cellulaire de la chancelière allemande était écouté par les Américains. C'est extrêmement embarrassant. Il dirait que... Je fais un petit détour très rapide, mais Julian Assange, de Wikileaks... est aussi largué par la communauté internationale et les grands médias qui ont très largement bénéficié de ce qu'il a fait. Assange, qui a été, lui, réfugié dans l'ambassade de l'Équateur à Londres pendant de nombreuses années, il était comme en prison. Éventuellement, quand il a commencé, ou son organisation, à sortir des informations sur l'Espagne et l'Espagne qui menait une campagne contre les indépendantistes. Quand on a compris ce que faisaient les Espagnols, l'Espagne l'a très, très, très mal pris et soudainement s'est mis à faire pression sur l'Équateur, avec lequel pays elle a de bonnes relations, en disant « Vous ne pouvez plus le protéger ». Et éventuellement, l'Équateur a largué Julian Assange. Il a été arrêté. Il est aujourd'hui en prison en Grande-Bretagne. Les Américains veulent sa peau. C'était beaucoup dire, mais en fait, ils veulent absolument qu'il y ait un procès. Et c'est aussi quelqu'un qui nous a mis en face de réalité brutale. On n'a qu'à se rappeler de ces images qui sont captées dans un hélicoptère de combat, alors qu'un pilote a dans le collimateur ce qui sait être un photographe de presse et tire. Tout ça, c'est grâce à Wikileaks qu'on l'a appris.
Ouais.
Et Wikileaks a déculotté plusieurs affaires. C'est pas toujours joyeux. Le personnage d'Assange est pas non plus sympathique. Il y a quelque chose de comment dirais-je? Je ne dirais pas que c'est un mythomane, mais c'est quelqu'un qui n'était pas de commerce agréable nécessairement. Mais faire ce qu'il a fait quand on est journaliste, c'est assez exemplaire. Et aujourd'hui, on dit que ce n'est pas du journalisme, c'était de l'espionnage. Je demande à ce que la démonstration soit faite. Et aujourd'hui, il risque effectivement d'être transféré aux États-Unis. Et je ne donne pas cher de sa peau s'il devait y être enfermé. Mais de toute façon, c'est un homme aujourd'hui diminué. Il a été mis hors combat, quoi qu'il arrive.
Tu vois, sur Snowden, je suis allé vérifier pour la France. En 2013, il a demandé l'asile politique. On lui a toujours refusé depuis, mais il avait comparu lors d'une conférence, mais à partir de la Russie. Donc, il n'a jamais mis les pieds en France. Mais il y a beaucoup de monde, notamment à l'Express en France, qui avait lancé une pétition pour pouvoir l'accueillir et lui faire terre d'asile. Donc, ceux qui disent qu'il voulait absolument aller en Russie se mettent le doigt dans l'œil, parce qu'en 2019, demandait encore d'être accueilli en France. Fait que...
Absolument, absolument. Je pense qu'il demande à sortir de la Russie. Il veut être le plus près possible de sa famille. En fait, il n'a jamais caché qu'il veut revenir chez lui aux États-Unis. On a pensé un temps qu'il serait pardonné dans les derniers jours de l'administration Trump, comme d'ailleurs Julian Assange, ça ne s'est pas fait. Ça nous ramène à la Russie, ce qui se passe, puis on aura l'occasion d'en reparler, ce qui se passe en Ukraine, parce que c'est peut-être aujourd'hui le dernier jour des référendums dans les quatre régions qui ont l'ambition de faire sécession et de joindre la Russie. Après ça, on dira qui dans ces quatre régions, quels électeurs, parce que plusieurs des électeurs qui auraient pu s'y trouver ont fui. Donc, ceux qui restent sont probablement aussi plus favorables à la Russie. Puis on a aussi bien souligné qu'il y a beaucoup de ces électeurs qui ont été visités par des militaires qui faisaient du porte-à-porte pour connaître leurs intentions de vote à main levée. Ça peut être un peu intimidant. Ce qu'on peut probablement déjà conclure, c'est que dans les prochains jours, il y a de fortes chances, dans le genre de 99% des chances, que ces quatre régions aient voté en faveur d'un rattachement à la Russie. Il ne serait pas surprenant que d'ici la fin de la semaine, Vladimir Poutine annonce que ces régions fassent désormais partie du territoire russe. C'est donc dire que la Russie, à partir de ce jour-là, comme on se le disait il y a une dizaine de jours, va défendre son territoire en Ukraine, qui ne sera plus l'Ukraine officiellement pour les Russes, mais qui sera la Russie. Ça nous met sur des lignes de démarcation extraordinairement sensible. Je répète que ça nous paraît toujours loin, mais ce n'est pas loin du tout. M. Poutine parlait de ce qui ne bluffait pas. On parle de guerre nucléaire, ce qu'on n'a pas fait depuis très, très, très longtemps. On dit que c'est évidemment odieux, ignoble, ça ne devrait jamais arriver. Il faut quand même pas oublier non plus, tout n'est pas relatif, mais qu'à ce jour, les seuls qui ont jamais utilisé l'arme nucléaire sont quand même les Américains, deux fois plutôt qu'une au Japon.
Les seuls à l'avoir utilisé,
Oui, tout à fait. Donc, je dis pas que ça justifierait aujourd'hui les Russes, loin s'en faut d'utiliser. Mais quand je vois le ton monter, il faut se rappeler que dans l'histoire, les Américains étaient prêts. Ils étaient all-in pour aller jusqu'à la conclusion d'un conflit qui aurait pu être nucléaire lors de la crise des missiles de Cuba, alors que leur souveraineté était menacée parce que les Russes déployaient des missiles à portée intermédiaire sur le territoire de Cuba, qui est à 100 quelques kilomètres de la Floride. Mais c'est des missiles qui menaçaient Washington, New York, et les Américains étaient prêts à dire, s'il le faut, il y aura une guerre, elle pourrait être nucléaire. Eux non plus ne bluffaient pas au début des années 60. C'est pas la première fois qu'on se retrouve dans ce genre de situation. Mais c'est vrai que dans la doctrine militaire russe, l'usage des armes nucléaires tactiques, donc des armes nucléaires, je sais pas comment, dans des circonstances pareilles, on peut qualifier le tactique par rapport au stratégique. C'est évidemment que c'est des armes qui ont moins de puissance, mais qui demeurent des armes nucléaires. La doctrine russe autorise, et non seulement l'autorise, mais dit clairement que si l'intérêt supérieur de la nation, le territoire est menacé, ils peuvent avoir recours à ce genre d'armes. Est-ce que ça sera la menace qui va nous pendre au bout du nez la semaine prochaine? Je pense qu'on n'est pas rendu là. Puis je ne suis pas alarmiste, mais je pense qu'il faut être réaliste sur les possibles risques d'escalade. Le Canada qui disait on envoie un nouvel avion de transport, un Hercule C-130 pour aider. Alors, à la hauteur du Canada, c'est beaucoup. À la hauteur de la guerre, c'est rien. Mais on a deux tire-poids et trois slingshots dans l'armée canadienne. Donc, quand on déplace un avion, évidemment, c'est
conséquent. Notre meilleur outil militaire, c'est l'avion. Partout, les gens vont reconnaître que le Canada est capable au moins de faire ça. Puis la logistique de transporter beaucoup, exact, beaucoup de gros matériel, c'est quand même hyper compliqué puis hyper précis. Donc là-dessus, mais même ces avions-là, moi, je n'ai déjà pris un pour aller au Mali, un des petits, là. Puis ça a été long, là, avant que ça décolle comme il faut, parce qu'il y avait des petits problèmes techniques encore, là. Fait que on est dû, nous, pour une revitalisation de notre système. Puis après ça, on essaie de jouer les gros bras sur la scène internationale en disant qu'on, c'est ça.
Il y a une espèce d'hypocrisie monumentale quand soudainement on veut faire les policiers et que depuis 35 ans, les dépenses militaires au Canada font rire de nous au sein de...
Non, il n'est même pas capable de s'acheter des jets, là.
Exact. Donc, de deux choses l'une, on pense que la guerre est une affaire sérieuse et on fait ce qu'il faut pour assumer nos responsabilités, ou on se tait et puis on laisse faire, parce que en ce moment, on est en face effectivement de cette réalité où on dit que le Canada peut parler avec autorité. Oui, parce que on est un joueur valable dans l'arène internationale, mais évidemment en termes de capacité à déployer, c'est limité. Mais à partir du moment où on le fait, et d'autres le font, puis les Européens sont plus près de la ligne de front, que les Américains sont très, 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 très présents, et que la Russie dit, soudainement, nos frontières ne sont plus les mêmes qu'avant. Mmh. Et la Russie ne fait que commencer à mobiliser. On parle de 300 000 hommes, et le seul type de nouvelles qu'on lit, c'est que ça va mal, il y a de la résistance, il y a des manifestations, et tout ça est probablement vrai, mais le bulldozer de la mobilisation, lui, n'arrêtera pas. Il y aura éventuellement des dizaines, sinon des centaines de milliers de nouveaux soldats qui pourront être déployés. Puis il faut voir que la Russie, jusqu'à maintenant, avait 150 000, 200 000 hommes pour essayer d'occuper et faire la guerre sur un territoire énorme, alors que l'Ukraine, parce qu'ils sont en guerre, ils sont évidemment mobilisés. C'est-à-dire qu'il y a 40 quelques millions d'habitants en Ukraine. Tout le monde qui peut combattre, qui peut contribuer, est au front. Les Russes menaient ces opérations jusqu'à maintenant avec, c'est pas accessoire, 150, 200 000 hommes, des gens qui sont évidemment entraînés. À partir du moment où ils disent on mobilise, ça va devenir concret dans les prochaines semaines, prochains mois. Il y a déjà quelque chose qui ressemble à de l'escalade. Encore une fois, il ne faut pas être pessimiste, mais d'être réaliste serait une bonne chose. Je pense qu'on a tous intérêt à y penser parce que c'est un film dans lequel, collectivement, on pourrait jouer pendant qu'on se préoccupe chez nous, évidemment, d'une campagne électorale qui va tirer à sa fin bientôt. Il y a un horizon, et c'est un horizon sérieux. Je n'aime pas dire inquiétant, mais encore une fois, il faut se préparer à ce que les nouvelles pourraient être sombres au cours des prochains mois et que il est très difficile, en fait, de planifier parce que le potentiel de dérapage à gauche, à droite est tellement grand. Il y a tellement de variables maintenant dans l'équation que rien n'est réglé et c'est certainement un nouveau chapitre. On s'est dit, est-ce que c'est la fin de la guerre? L'Ukraine a repris l'offensive. Je ne crois surtout pas que c'est la fin de la guerre. On est dans une étape qui est peut-être plus inquiétante que le début des opérations en février dernier.
Stéphane, bonne journée puis profite de Québec pour nous. Là.
Et du soleil, parce qu'il y a aussi des bonnes nouvelles dans le monde, il ne faut pas l'oublier.
Exact, salut.